Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui le restaurateur Stéphane Manigol. Nous sommes avec Marianne Soubré, avocate, avec Bruno Poncet, cheminot. Des Grandes Gueules que vous retrouvez aussi en instantané sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, notamment avec les vidéos qui sont mises en ligne. Et je sais que vous retrouvez après l'émission aussi, grâce au podcast. Oui madame, au podcast sur notre site internet rmc.fr ou bien sur l'appli RMC, et vous retrouvez le show des GG que vous pouvez écouter en différé. Dans les Grandes Gueules, tout à l'heure, on reparlera des rodéos urbains avec Stéphanie Bonneuve, c'est la maire de Pontoise. À 11h, la traque des jets privés via leurs données sur Internet. Ces manières de montrer du doigt les privilèges des milliardaires qui se foutent complètement de la planète et qui privilégient les trajets courts. Alors, divulguer leurs trajets comme ça publiquement, est-ce que c'est bon pour la cause écologique parce que ça leur montre leur responsabilité ou est-ce que c'est de la traque anti-riche? On en parlera dans le GG7 et Match à 11h. En attendant, parlons de la grande démission de ces Français qui quittent leur emploi pour trouver un sens à leur vie. Ça désorganise l'économie, c'est une certitude. Est-ce que c'est aussi le grand égoïsme? Venez en parler au 32-16.
Le Covid, ça nous a fait tous prendre conscience que, en fait, il y avait des choses beaucoup plus importantes. Finalement, c'est dans une boîte en marketing, on s'en fout, quoi.
Vous aimeriez, vous, travailler pour un patron, tous les jours, il vous dit, ouais, vous êtes nul, vous êtes pas bon, c'est jamais bien, c'est jamais ci, c'est jamais ça. La vie, c'est ça, je me lève à 3h du mat, je rentre, il est 15h, je suis fatigué de ma journée, et j'ai dit, c'est bon, je passe l'éponge, je me tire, je m'en vais, j'ai rien perdu.
Je me tire, je m'en vais, je démissionne, parole de salarié. En fait, c'est un phénomène qui vient d'outre-Manche, ou d'outre-Atlantique plutôt, qui s'appelle le big quit. C'est-à-dire, c'est effectivement le grand départ, la grande démission. En France, 500 000 travailleurs qui ont démissionné au premier trimestre 2022. Un chiffre historiquement haut. Aujourd'hui, ce que l'on appelle la dimension du management, de la liberté d'organisation, l'engagement pour la planète sont devenus des choses très importantes. Beaucoup de salariés disent, en fait, j'ai réfléchi, je me dis, il faut que je trouve un sens à ma vie. Je sais ce que l'entreprise m'a apporté, mais le plus important, c'est moi. Alors, cette grande démission, est-ce que vous la comprenez? Peut-être l'avez-vous vécu? L'avez-vous traduite en action? Est-ce que c'est la grande démission ou c'est le grand égoïsme? 32-16 pour en parler avec les GG. Marianne?
Eh ben, c'est une excellente nouvelle.
Ah bon?
Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que, économiquement, parce que les économistes font des modèles, quand ce phénomène-là arrive, ça veut dire que l'emploi est au plus haut. Donc, en réalité, quand les gens font ça, c'est que l'emploi va très bien. Qu'on a donc la possibilité de faire jouer la concurrence entre un mauvais patron qui va te faire travailler dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables et que tu n'as plus envie d'accepter, et un nouveau job sur lequel, en plus, tu auras peut-être des horaires qui seront différents, qui seront améliorés. Et tu vas privilégier, donc la deuxième bonne raison pour laquelle c'est une excellente nouvelle, c'est que les gens commencent à privilégier leur vie par rapport à une vie professionnelle qui peut être à un moment assimilée en fait à une perte de sens et à une servitude. On va pas aller
Si ce qu'on a entendu c'est aussi une servitude.
Non mais en fait tu retrouves le sens de la vie, tu retrouves le sens des choses, tu te dis que dans la vie il y a des priorités, que ta priorité ça peut être.
C'est-à-dire qu'avant la priorité c'était d'avoir un travail même s'il était contraignant,
prix,
voilà.
À n'importe quel prix,
pour nourrir sa famille, payer son loyer
et autres. N'importe quel prix, c'est-à-dire des conditions de travail qui sont dégradées, c'est-à-dire être très loin, par exemple, aussi de ton lieu de travail. Donc là, aujourd'hui, écologiquement, en plus, c'est beaucoup mieux parce qu'on se rapproche de son lieu de travail. On va dans des endroits, des plus petites villes. Alors, on va faire vivre les petites villes. On va, en plus, faire moins de trajets. On va s'occuper plus de ses enfants et de sa famille. Donc, il y aura moins de divorces. Enfin, moi, je trouve ça génial.
Bon, j'adore. La grande démission, c'est génial.
J'adore.
Alors, les auditeurs, avant que vous finissiez votre lettre de démission parce que vous avez écouté Marianne Soubré, je vais quand même vous apporter quelques éclairages.
C'est une en faveur de la grande démission.
Alors, ami patron, vous allez vous choper plein de lettres de démission rédigées par Marianne Soubré. Hein. Non, plus sérieusement. Le travail, c'est aussi ce qui permet de contribuer à la solidarité. Et la grande démission, évidemment, elle ne concerne pas que nos métiers, la restauration, on est frappé de plein fouet sur ce sujet. Si ce que tu dis était vrai, par exemple, quand tu cites les salariés démissionnent pour aller vers de meilleures conditions, si ce que tu dis
80%,
était vrai, ce serait formidable.
Mais
c'est pas le cas.
Abaissé.
Mais c'est pas le cas. Moi, je serais rassuré. Parce que ça voudrait, si un salarié démissionne de chez moi pour aller ailleurs, je serais rassuré parce que c'est dire que j'ai de la croissance. Il faut que je progresse dans mon management, dans l'escalier social. Ce qu'on fait déjà dans l'entreprise.
Mais c'est ce pas qu'ils le font, cas. Les gens. Mais
non.
Si. Mais alors là, je te dis tous les économistes.
Ils te font des abandons de poste aujourd'hui pour rester 2 ans à la maison.
Mais non.
Pardon, se branler la nouille.
Mais comme Emmanuel Macron le disait. Ça, si tu veux, c'est dans les fantasmes des gens.
Mais c'est la vérité. Je peux t'en sortir plein. Mais Marianne, ma chère Marianne, si tu veux, avec moi, cet après-midi, tu vois, sur Pôle emploi, les candidats sont disponibles. Je les ai appelés au mois de juin et m'ont expliqué, rappelez-moi en septembre, ils cherchent du travail. Je leur proposais exactement ce qu'ils voulaient. Rappelez-moi en septembre, là c'est les vacances, je suis en famille, au mois de juin. Mais cette question, elle est lunaire. On est en train de vivre un mai 68,
mais peut-être mais parce complètement que vous, les restaurateurs, vous n'avez pas donné des bonnes conditions.
On
vous
est dans une situation de pays de riches, au fond, où l'emploi va bien.
Il y a un matelas social.
Il y a un matelas social, il y a un parachute qui est sans. Moi, le parachute social, j'en viens et je considère que le parachute social, il doit s'ouvrir quand tu as de vrais problèmes. Là, on n'a pas de vrais problèmes, là. La vérité, c'est que on doit se mettre autour de la table. Quels sont les pays? Alors, j'ai observé, parce que tu l'as dit, ça vient des États-Unis. Mais quels sont les pays où ça fonctionne? Ben, c'est les pays scandinaves, l'Allemagne, l'Autriche. Là, ça marche.
Aux États-Unis, ils n'ont pas de chômage. Si les gens démissionnent,
regarde,
prends les États-Unis, justement. Prenons les États-unis.
Mais t'es merde aux États-Unis, je vous rendement, faut la porte.
Non, mais oui, mais c'est eux qui démissionnent. Donc, ça veut bien dire qu'en réalité, c'est parce que le secteur de l'emploi.
Les gens qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont des gros matelas financiers, qui se disent je vais faire fermier dans le Nevada.
C'est très général.
Mais c'est pas général, c'est ça?
Non, c'est très général. C'est pas des gens qui démissionnent pour se mettre au RSA ou autre. C'est des gens qui trouvent mieux, des conditions, peut-être qu'ils gagneront moins, mais ils seront plus près de leur lieu de travail, mais ils verront plus leurs enfants.
Marianne, moi, je trouve que c'est génial. D'accord. Ça s'appelle le syndicalisme. Pourquoi l'Allemagne, l'Autriche et les pays scandinaves, ça marche? Parce qu'ils ont des principes qui sont très clairs. Un tiers des membres du conseil d'administration, ce sont des salariés. Il y a une gouvernance qui est faite main dans la main avec les salariés. Je tends la main à mon camarade Bruno. Il y a une vraie gouvernance. Le syndicalisme en France, pardon de le dire, c'est de la merde. Les gens ne se sentent pas concernés, que ce soit les patrons par le syndicalisme patronal et les salariés. Mais regarde le taux d'engagement.
Avec le big quit, avec la grande
parce que
démission.
Justement, en Allemagne, le syndicalisme est fort. Ils savent trouver des consensus, ils savent se mettre autour de la table et ils savent se mettre d'accord. Enfin, en France, c'est l'affrontement systématique.
Non, mais toi, tu dis quand même que la grande démission, c'est assez égoïste comme choix.
C'est très égoïste.
Alors, Bruno Poncet.
Alors, moi, ça me donne plusieurs réflexions. Première réflexion, souvent, ceux qui quittent leur travail, alors à part dans la restauration, c'est comme les CSP+, c'est des gens qui avaient des postes à responsabilité dans des banques, dans des organisations, dans des trucs, et qui ont les moyens de partir peut-être.
Maintenant qu'ils sont blindés, au revoir.
Voilà, il y a de ça aussi. Donc, moi, je pense pas que quelqu'un qui est ouvrier, il ait les moyens d'aller changer de boulot, parce qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'il fasse chauffer la marmite. Après, deuxièmement, moi, ça me rassure de penser qu'aujourd'hui, des jeunes, et souvent des jeunes le disent, que leur objectif dans la vie et leur ambition, et moi ça a été la mienne depuis que je suis né, l'ambition c'est quand même d'être heureux, c'est pas faire de l'argent, c'est pas d'être d'avoir un poste à travailler, c'est d'être heureux. Et si t'es pas heureux dans ton travail pour x y raison, et d'avoir le courage, l'ambition de le quitter, de se dire je vais peut-être faire un boulot, je gagnerai moins, mais que je serai plus heureux parce que je serai plus près de chez moi, parce que quand je rentrerai le soir, je me traperai pas une heure de métro, j'ouvrirai mes fenêtres et je verrai des oiseaux, je verrai de l'arbre, je verrai des fleurs. C'est là quand on dit ça. T'aurais dit ça en 2019, 2020, tu dirais c'est bon, t'es gentil. Mais là, après 2020, après le confinement, où les gens qui travaillent dans des conditions difficiles dans leur travail vivaient dans 15-20 mètres carrés, je pense que derrière ça fait un tilt. Mais réellement, moi je pense vraiment que moi ça me rassure sur le fait d'entendre dire des gens que leur ambition c'est le bonheur, c'est d'être heureux, c'est d'avoir une vie qui leur correspond.
Mais heureux seul ou en collectivité? C'est la question, parce que le bonheur,
malheureusement,
il l'achète. Et je vais te donner un chiffre.
Oui, c'est ça, parce que le bonheur, c'est bien beau, mais derrière, il faut quand même
qu'il s'aille. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, les gens?
Moi, je pense que ça va être, tu vas voir, là, c'est la grande démission, parce que c'est post-Covid, tout le monde est stressé. Et tu vas voir, dans un an ou dans deux ans, tout le monde va revenir en disant, merde, la grande démission, finalement, j'arrive pas à faire tourner mon foyer. Je me suis mis à mon compte, je croyais qu'en un an, deux ans, j'allais me développer, finalement, j'y arrive pas. Et c'était peut-être mieux quand je m'emmerde. regardais un peu la vie avec mon chef de service, mais finalement, tous les mois, j'avais quand même une paye qui tombait.
Tu as raison, Alain, il faut que les choses évoluent. Et je le disais, le dialogue social, patronal, salarial, il doit évoluer. L'ancien monde, on doit tourner la page.
Pour faire en sorte que les salariés descendent bien.
Parce que t'as, je vais donner juste un chiffre.
Marianne.
T'as un salarié sur quatre qui ne quitte pas l'entreprise. Il quitte son manager.
Oui,
c'est pas pareil.
On a connu, en fait, les années 80, où la clé de la réussite, c'était avoir beaucoup d'argent, des belles fringues, des trucs 80-90. C'était vraiment Wall Street, c'est cette époque-là, etc.
Les 30 glorieuses, quoi.
Voilà. Non, mais c'était ça, la valeur. La valeur, c'était qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque, quelle est la marque de ta bagnole, etc., etc. Mais même la France a subi ça. Moi, qu'aujourd'hui, on inverse, et que la valeur, ça soit de travailler, parce que c'est pas des gens qui partent, en fait, vivent dans des grottes, c'est des gens qui vont travailler, mais faire un autre travail qui aura plus de sens. Si aujourd'hui, c'est avoir du sens, s'occuper de sa famille, voir ses amis, eh ben pardon, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Je préfère ces valeurs-là que les valeurs de l'argent.
Marianne,
quoi.
est-ce qu'on peut être d'accord tous les deux, puisque tu es toi-même employeur, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que quand tu es salarié, que tu n'es pas content des conditions et du management et de l'environnement dans lequel tu évolues?
Mais c'est un peu la faute du patron parfois. Ça peut être la faute du patron.
Bah, deviens patron. Dans ce cas-là,
tout le monde ne peut pas devenir patron.
Mais si, pourquoi ?
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, tout le monde ne peut pas devenir patron.
C'est quoi ce fatalisme ?
Mais non, mais la façon de dire ça,
la façon dont tu poses les choses,
ça voudrait dire que finalement, il n'y aurait jamais eu les 35 heures, il n'y aurait jamais eu d'acquis sociaux, puisqu'on aurait dit aux gens, toi, le salarié, si tu n'es pas content de tes conditions de travail, t'as qu'à devenir employeur. Ça n'a aucun sens. Alors, les salariés ont le droit d'avoir des bonnes conditions de travail.
On va en parler, Marianne, Stéphane et Bruno, avec Pascal qui nous appelle de Gironde. Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal.
Oui. Bonjour les GG.
Que pensez-vous de cette grande démission, alors, mon cher Pascal ? Est-ce que c'est le temps du grand égoïsme ?
Il me semble, en tout cas de mon point de vue, parce que depuis quelques mois, je vis un petit peu un enfer. J'ai une boîte de service à la personne que j'ai montée il y a un an et demi à peu près sur la teste de bûche. J'ai monté progressivement en puissance dans ma société. Je suis arrivé à atteindre un niveau assez correct, on va dire avril-mai. Ma société tournait bien, j'avais 6-7 salariés. Et là, début avril, j'ai une première salariée qui m'a dit « je vais partir, donc je vous laisse le temps de me trouver une remplaçante. » Ok, très bien, super, pas de souci. J'ai mis 2 mois à trouver quelqu'un pour la remplacer. Donc début juin, j'ai fait une semaine en août parce qu'elle avait beaucoup de bénéficiaires, des petites dames âgées qui vivent sur Arcachon, sur la Teste et qui ont besoin d'aide, parce que pour rester à sa maison, il leur faut de l'aide pour le ménage, pour les courses, etc.
Ouais.
Et donc elle est, j'ai fait une semaine en double avec la nouvelle salariée pour que à ma charge, bien évidemment, je payais les heures de la seconde. Et la semaine suivante, donc elle devait être toute seule, la nouvelle, et en fait elle est pas venue. Pas de son, pas d'image, rien du tout. Elle a planté complètement, donc elle avait 35 heures avec une dizaine de personnes pour qui elle devait travailler. Elle n'est pas venue du tout, donc déjà deux parties. Mm-hmm. Suite à ça, j'ai eu deux salariés qui m'ont posé leur lettre de démission, qui sont partis début juillet. Donc début juillet, je me suis retrouvé un peu dans la galère, puisque l'été à Arcachon, on sait que c'est là que l'activité est forte et il me restait plus que 2 salariés. Donc ces 2 salariés-là, heureusement, on va y revenir, très motivés, donc ils ont bossé à fond pendant 2-3 semaines à prendre le maximum de clients pour avoir un bon salaire, etc. Et un jour, ils m'ont envoyé un message le matin, ils m'ont dit on vient plus terminer, on arrête. Donc je me suis retrouvé avec 0 intervenante. Et ces deux derniers salariés en plus ont envoyé un message à tous les ceux qui connaissaient ma situation, à tous mes clients, en disant on sait que Monsieur Hitchcock ne peut plus fournir, donc si jamais vous souhaitez continuer à avoir des aides à domicile, on est là.
Ils se sont mis à leur compte,
ils se sont mis à leur compte, exactement.
Pascal, j'ai une question en fait, parce que vos salariés, pour aller de chez une personne à une autre, ils utilisent leur propre véhicule ?
Tout à fait, oui.
Oui, donc en fait, est-ce que vous avez augmenté en fait l'indemnisation avec le prix de l'augmentation du carburant ?
J'ai doublé les frais kilométriques, moi, dès le démarrage de ma société. Normalement, c'est...
avec la hausse actuellement... ce qui se passe aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont trop mal payés pour pouvoir continuer à travailler, parce qu'en réalité, entre venir sur leur lieu de travail, utiliser son propre véhicule avec l'augmentation du carburant, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens.
Donc
moi, honnêtement, je ne veux pas jeter la pierre à Pascal, je ne le connais pas, et peut-être qu'il a eu affaire à des...
Allez-y Pascal, ça s'entend.
Un kilomètre, ça revient à peu près, même avec le prix d'essence actuel, entre 10 et 15 centimes, on va dire, en frais d'essence. Je paye 45 centimes le kilomètre pour tous les déplacements. Deux fois plus que ce que préconise la convention collective. Les salaires salaire, je paye 10% de plus que le SMIC parce que je veux rémunérer une
profession. C'est un métier pénible, là, on est d'accord.
C'est un métier pénible, exactement. Très difficile. Donc, je fais ça pour. Je me suis dirigé vers les services à la personne parce que je veux rendre service, je veux donner un sens à ma vie. J'ai 49 ans maintenant. Voilà, j'ai gagné ma vie dans le passé. Je me verse zéro salaire depuis avril 2021. Je n'ai pas gagné un centime dans ma société. Et là, je repars à zéro, en fait. Donc c'est la grande démission. Oui, c'est bien dans certains cas, mais là, dans mon cas, je vous avouerai que.
Oui, donc en fait, vous êtes retrouvé. On vous a laissé tomber, quoi, en fait. C'est ça, quoi.
Ah, mais complètement. Et puis les gens l'ont fait d'une façon vraiment.
Cavalière.
Sans se préoccuper de quoi que ce soit. Je vous dis, toutes les petites dames âgées dont je m'occupe à Arcachon, elles se sont retrouvées du jour au lendemain avec personne. Et voilà, elles en avaient rien à faire. C'était quelque chose qui ne les intéressait absolument pas. Moi, j'ai perdu 8 kilos j'ai perdu 8 kilos au mois de juillet parce que je passais mon temps à les appeler, ces petites dames, à m'excuser, à leur dire, je vais trouver une solution, je vais faire ce que je peux. Mais voilà, quand je passe.
Attendez, passez, parce que Bruno Poncet voulait réagir, Bruno.
Ouais. Malheureusement, pour Pascal, on n'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est que les gens, ils démissionnent pour avoir une autre qualité de vie ou pour changer de vie. Lui, on a bien entendu qu'il y a un certain temps démissionné pour un peu rentrer en concurrence avec lui ou pour changer de boîte, pour faire le même métier.
Exactement.
C'est pas le même sujet, en fin de compte. En fin de compte, malheureusement, ce que Pascal vit, c'est la loi du marché. Et puis, malheureusement, c'est la pire loi qui existe, moi, je pense. Mais par contre, c'est pas du tout le sujet. Nous, le sujet, c'est plutôt des gens qui s'en vont d'un métier qui est contraignant pour faire carrément autre chose et changer de vie. Peut-être pour aller élever des chefs dans le Larzac plutôt que d'aller à la banque.
Mais je suis pas d'accord avec ce que Pascal dit.
Allez-y, Pascal, oui.
Une petite aparté. La loi du marché, d'accord, mais il faudrait que la concurrence soit loyale parce que là,
c'est pas légal.
Les gens, peut-être pas forcément, mais quand on paye quelqu'un en SMIC, on a un fort abattement de charges patronales. Ça, c'est très bien, merci à l'État. Mais dès que j'augmente un peu le SMIC, en fait, dès que j'augmente un peu le salaire, on me supprime complètement cet abattement.
C'est
donc
pas normal
pas,
non plus. Ouais.
Je ne peux pas avoir des salaires corrects dans ma société, c'est pas possible. Donc forcément, les salariés après veulent s'installer à leur compte parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont gagner plus. Bon, j'ai quelques exemples dans le passé qui prouvent que c'est pas forcément vrai, mais voilà, c'est leur vision de la chose et on n'est pas aidé, quoi. Si c'était l'inverse, si on charge beaucoup les gens qui sont SMIC et qu'on libère un peu de charge pour les gens qui veulent payer un peu mieux leurs salariés, ça me semblerait un peu plus cohérent quelque part.
Merci Pascal de cet exemple, merci d'avoir été avec nous, Pascal, du côté de la Gironde. À bientôt Pascal, merci. Dans un instant, Charlène, elle nous appelle de Haute-Savoie. Alors Charlène, justement, vous allez entendre, elle a été vendeuse pendant 10 ans. Finalement, elle a dit basta. Voilà, basta. Et elle est partie dans un autre domaine d'activité. Parce qu'elle voulait trouver un sens. Alors justement, et là on y revient, ça a un sens. La grande démission, est-ce que c'est le choix égoïste? 32-16 pour venir en parler avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Bon, ça avance, hein. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Stéphane Manigold, restaurateur, Bruno Poncet, cheminot, Marianne Soubré, avocate. Et surtout avec vous. Au 32-16, on parle de cette drôle d'époque que l'on vit, drôle d'époque qui connaît maintenant la grande démission post-Covid. Plein de gens ont tout envoyé balader en disant « je veux plus faire ce que je suis en train de faire, je veux plus de mon boulot, je veux trouver un nouveau sens à ma vie, bras d'honneur au patron ».
Je vais leur écrire leur lettre de démission.
Je sais bien,
sur une idée, Stéphane Manigault.
Non mais tant qu'il ne la signe pas, ça me va.
Ne la signez pas, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas la signer. Et si vous dites que vous avez entendu ça dans les GG, vous aurez 10% de réduction sur les honoraires de Maître Soubré. Donc cette grande démission
quoi,
qui touche...
C'est le capitalisme, il se cache partout.
Alors soyons clairs, je ne fais absolument pas de droit du travail, que les choses soient claires, c'est une blague.
La grande démission, 500 000 travailleurs français qui ont démissionné au premier trimestre 2022. C'est un chiffre qui est historiquement haut. Le record précédent, ça datait du premier trimestre 2008. Ouais. Donc 14 ans plus tard. Voilà, post-crise 2008.
Non, c'était, pleine crise. 2008.
Oui, c'était la crise des subprimes.
2009, ouais.
Ouais. Alors, Charlène veut nous dire si elle a participé ou si elle est en train de participer à cette grande démission. Bonjour Charlène.
Bonjour à vous.
Alors, dites-nous tout Charlène.
Alors, écoutez, moi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, je fais partie de ce genre de personnes qui ont compris que pendant le Covid, je pouvais plus du travail que j'avais. J'ai travaillé 10 ans en prêt-à-porter à Genève. Donc moi, par contre, je travaille en Suisse avec des revenus très confortables.
Et Genève, oui.
Donc environ 3 500 euros net d'impôts, puisque c'est prélevé directement à la source, donc sur la fiche de paie. Et puis, je trouvais plus de sens. Je voyais plus vraiment à quoi j'étais utile dans cette vie, en fait, à vendre des vêtements et puis à travailler les samedis aussi. On va pas se mentir, parce qu'on travaille les samedis. On travaille 42 heures par semaine en Suisse. J'avais plus vraiment de vie sociale puisque mes amis avaient cette chance de pas travailler le week-end et puis de pouvoir demander des congés plus ou moins quand ils voulaient. Et nous, dans le prêt-à-porter, les soldes, c'est pas possible. Noël, c'est pas possible. Donc Noël, c'est jamais avec la famille. Et puis du coup, bah, j'ai décidé de m'informer sur les éventuelles formations, puisque malheureusement, en France aujourd'hui, on recrute très peu de personnes sans diplôme. Mm-hmm. Donc j'ai demandé un licenciement. Moi, j'ai pas démissionné. Par contre, j'ai demandé un licenciement qui m'a été accepté. Puisque j'ai été rétrogradée pendant le Covid, mmh. Puisque j'avais une promotion en fait, et puis j'ai découvert sur ma fiche de paie pendant le Covid qu'on m'avait rétrogradée sur mon rang de 80% en tant que vendeuse et pas en tant qu'adjointe. Donc ça m'a pas vraiment plu, parce que j'étais pas informée, ouais. Ils ont profité de cette période d'essai. Et du coup, je me suis renseignée sur des formations, j'ai été à la CCI et puis j'ai fait une formation en Bac+3 gestion et transactions immobilières. Du coup, que j'ai repris en alternance en septembre. Donc, à 34 ans, j'ai repris une alternance dans une société. Donc, avec des étudiantes de 20 ans. C'était assez particulier, mais c'était génial.
Vous avez trouvé l'amour.
J'avais déjà trouvé l'amour. Mais voilà. Donc, j'ai repris mes études. J'ai passé mon Bac+3. J'ai eu avec succès en plus. Et j'ai été embauchée 15 jours après donc je travaille aujourd'hui pour la Caisse des dépôts et des consignations pour le secteur social, donc c'est l'attribution de logements sociaux, donc c'est ce que je voulais vraiment aussi.
Donc il y a un vrai sens.
Là, on n'est pas dans
vous le regrettez, mais vous gagnez moins.
Ah, mon banquier,
non, pas dans l'immobilier.
Ah oui.
Sûr. Donc là aujourd'hui, clairement, je gagne 1600 euros net par mois.
Vous êtes passé de plus de 3000 euros net d'impôts à 1600 euros net par mois, mais c'est finalement, vous êtes plus heureuse en tant que personne, quoi, c'est ça? Vous travaillez pour autrui dans le logement social.
Si c'est aussi simple que ça, moi je vais le faire. Hein.
Je regrette pas du tout. Par contre, j'ai dû reprendre des études, puisque clairement, on va pas se mentir que sur la fiche de poste, c'est clairement marqué +3, quoi. Donc, je pense que j'aurais pu être capable d'avoir ce travail sans ce Bac+3, mais ça m'a ouvert des portes. Donc, je ne vais pas aussi vous mentir que j'ai eu la chance, moi, d'être licenciée. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir un complément de salaire, donc qu'on appelle la RE, donc le retour à l'emploi.
Oui, en Suisse.
Donc il y a des accords avec la France pour ça. Je pense que je l'aurais fait dans tous les cas. Mais on va dire que ça m'a aidé à redémarrer. D'accord. Donc souvent on critique les salariés en disant oui, ils vont profiter du chômage. Moi j'ai pas pris un mois de chômage.
Non mais Charlène, quand je me positionne sur ce sujet, je précise toujours, mais je le reprécise à nouveau, moi je suis plutôt heureux que le système de protection permet à des salariés comme vous de vivre la grande aventure, c'est-à-dire devenir entrepreneur et qu'il y ait un matelas derrière.
Les salariés maintenant.
Oui, mais elle a repris ses études. Et donc, c'est la reconnaissance sociale. On l'entend dans son discours. Elle est très fière. Elle a un Bac+3 aujourd'hui. Et bravo de ne pas. Moi, ce que je déplore, c'est les gens qui restent à la maison. Les gens comme Charlène qui veulent redonner un sens à leur vie, qui reprennent des études, qui font une formation et qui changent de voie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me gêne, c'est ceux qui restent à la maison. Ça, c'est pas la même chose.
Je remercie Charlène de ce témoignage, mais ça rejoint un peu ce que disait Bruno aussi. C'est-à-dire que pas tout le monde peut le faire, quoi. Tu vois, Charlène, c'est parce qu'elle avait un emploi qui lui a permis aussi de démissionner, d'avoir un petit matelas social et de reprendre des études. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui subissent le plus leur travail, c'est ce qu'on a appelé les premiers de cordée pendant un temps et qui, eux, n'ont pas les moyens de dire je me tire et j'essaie de faire autre chose. Riche. Ou alors, il faut vraiment avoir du courage et se dire je vais peut-être encore plus galérer, mais au bout, j'y arriverai peut-être. Enfin, je sais pas si autour de toi, t'en as beaucoup qui l'ont fait, Bruno, mais.
Moi, j'ai des amis qui ont changé de vie, diamétralement opposé et qui ont perdu des salaires et moi, je me retrouve dans ce que dit Charlène, l'histoire moi c'est des événements de la vie qui ont fait que je voulais donner un sens à ma vie et me tourner vers les autres, mais ça je trouve ça très important parce qu'à un moment donné, une fois que t'as travaillé et puis que t'as travaillé pour gagner ta vie, bien gagner ta vie puis pour en profiter, parce que c'est ça, une trentaine d'années tu gagnes 3000 balles, t'es bien, hein, surtout en Suisse. Mais d'un seul coup, après, tu te dis peut-être que ma vie elle serait peut-être mieux si je m'occupais des autres, tu vois, parce que tu sais qu'autour de toi c'est plus dur. Et moi, j'ai des amis qui ont fait ça aussi. On a quand même pas mal d'exemples. Moi, j'ai assez d'exemples autour de moi, mais pareil, moi, je vis peut-être dans un milieu où les gens ont eu besoin de changer de vie après des événements dramatiques. Mais j'ai beaucoup de personnes, moi, qui sont tournées vers d'autres choses, des choses peut-être artistiques. Des choses peut-être un peu plus artistiques, souvent tu ne gagnes rien, c'est compliqué avant de gagner des rangs quand tu fais de l'artistique. Des choses plus sociales, mais en se disant au moins ma vie a un sens, et parce que tu crées, parce que tu aides quelqu'un. Et
là, on est sur des exemples à la marge, parce que on parle de la grande démission. Moi, je parle aussi de la grande anarchie qui nous guette, parce qu'on parle uniquement du service privé. Mais parlons du service public. Quand nos gamins ne pourront plus aller à l'école parce qu'il y a eu la grande démission des profs,
la grande démission des chauffeurs de bus scolaires,
la grande démission de ceux qui font la cuisine pour nos enfants, parce qu'on va parler de pénibilité à l'école. T'as 6 mois de vacances par an au total, puisque t'as l'ensemble. Attends, mais laisse-moi développer. T'as l'ensemble des vacances scolaires dans la restauration collective. Je termine. Dans la restauration, je parle. Restauration collective, ceux qui nourrissent les cantines scolaires de nos gamins, c'est un seul service. C'est le matin, à 16h, t'as la maison, t'as les vacances.
La grande démission de ceux qui ne veulent plus travailler le week-end aussi.
Les maires aujourd'hui en France n'arrivent même pas à recruter des cuisiniers pour faire la nourriture à nos gamins.
Je vais donner un excellent exemple.
Donc la grande anarchie, Marianne, grâce à toi, c'est demain.
Je vais te donner un très très bon exemple. De quelqu'un qui a travaillé toute sa vie comme cuisinier dans le privé. Et ben arrivé à un certain âge, avec ses horaires à la con, ses salaires à la con, il a été en plus licencié au moment du Covid. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est cuisinier dans une cantine scolaire, tu vois? Parce que effectivement, dans la cantine scolaire, et ben il a des meilleurs horaires et effectivement, enfin tu vois, il y a un moment aussi
mais ce que je dis est vrai.
Il a raison, Bruno, sauf qu'on est quand même en pénurie de main d'œuvre aujourd'hui pour tous ces.
Mais
tu plaisantes. Parce que aujourd'hui, la grande démission, c'est la grande démission et je veux bien la grande réembauche, mais pas les week-ends et pas à partir de 22h le soir.
Mais dans les cantines scolaires, ça existe.
Il faudra bien qu'il y ait des gens qui assurent les week-ends pour ceux qui
et surtout le paradoxe ultime.
Il faudra bien travailler le soir pour ceux qui sortent et qui vont dîner.
Le paradoxe ultime, c'est que je veux mes week-ends pour profiter, aller au musée, aller au cinéma, sortir. Bah oui, mais à un moment, c'est qu'il y a des bourricots qui travaillent le samedi et le dimanche. Donc, il faut accepter aussi que dans une ville comme Paris ou Marseille ou des grandes capitales touristiques,
il faut accepter que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent le week-end.
Charlène, elle a trouvé un sens à sa vie. Mais Charlène, j'imagine que les week-ends ou les boutiques qui sont ouvertes les week-ends, elle en avait marre. Il faudra qu'il y ait des salariés qui fassent quand même les tournées.
Ils vont trouver des gens pour vendre des fringues et gagner 3 200 balles par mois.
Non, mais même les autres boutiques aujourd'hui, les commerçants.
Intéressant l'exemple de Charlène, parce que la Suisse, c'est un pays qui paye très très bien
Mais
qui aujourd'hui, malgré le fait de bien payer, a le même problème que les autres, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à recruter.
Et moi, je pense plutôt Stéphane disait ça va être l'anarchie, je dis c'est très bien l'anarchie. Et moi, je pense que de la grande démission, on va tomber sur la grande illusion.
Exactement.
Avec l'inflation qui va arriver, tous ces gens qui ont trouvé un sens à leur vie et tant mieux pour eux, et qui à un moment vont se dire j'ai un sens à ma vie, mais j'ai une fiche de paye qui a baissé. Et là, ça va être la grande déception aussi peut-être.
Oui, parce que forcément,
moi j'ai connu les courses. Attends, c'est Bruno.
Moi, je pense qu'il faut pas prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. Quand quelqu'un fait la démarche de changer de vie et tout, il a réfléchi
à tout.
Il a commencé à poser tout. Il s'est dit dans sa tête, moi je vais tenter le coup. Et à un moment donné, enfin c'est une aventure. Hein, mais moi je pense qu'il faut arrêter de penser que les gens ils font sur un coup de tête. Tiens, il y a le Covid, ça m'a saoulé, je me barre. Là. Non, les gens ont réfléchi. Et oui, il y a l'inflation et tout, mais l'inflation elle est aussi pour ceux qui gagnent leur vie correctement. Elle est aussi pour ceux. Mais quand tu habites en province et que à un moment donné, tu as recentré ta vie sur ton quotidien et sur un truc local, ta vie te coûte moins cher, t'as moins de dépenses. Et puis, si à un moment donné, tu es revenu en arrière sur cette idée d'hyper-consommation en te disant, moi, ma vie, c'est pas d'aller consommer tous les samedis, tous les dimanches, c'est plutôt de regarder mon jardin, de faire des plantes, d'aller discuter avec mes voisins, je vais te dire un truc, l'inflation, tu vas la prendre, parce que, évidemment, quand tu habites plus loin en province, forcément, ta voiture, ça va devenir ton meilleur ami, et forcément, ça coûte très cher. Mais moi, je pense réellement que les gens ont choisi, et à un moment donné, moi, je pense qu'il faut.
Ils vont revenir.
Mais ils reviendront peut-être, mais ils reviendront pas tous, parce que je pense que la qualité de vie va primer sur tout le reste.
On va écouter Benjamin qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
La grande démission, c'est la grande illusion et le grand égoïsme ou pas alors ?
C'est pas forcément de l'égoïsme. Moi, je gère une entreprise de sécurité depuis 10 ans. Je l'ai créée il y a 10 ans, j'ai 35 ans. Non, c'est pas de l'égoïsme. Il y a un désir chez les salariés de faire autre chose. Il y a un désir de découvrir d'autres environnements. Et puis, les médias ne cessent de le répéter en ce moment qu'il y a du boulot partout et qu'on est tous en charge de main-d'œuvre. Donc, nous, on constate que nos salariés, j'en ai 8 qui ont démissionné depuis la crise Covid, ce qui est considérable pour une PME de 40aine de salariés, que j'arrive pas à remplacer, évidemment. Ils font pas des métiers dits meilleurs. Ils font d'autres métiers. Ils ont ce désir de changement. Et j'en ai déjà, en 2 ans, qui reviennent chez nous. Parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, finalement.
C'est la grande illusion, là, où derrière, c'est la déception.
Oui, mais t'as raison d'avoir
Et nous, en 2020, parce que le secteur de la sécurité privée, il est lourdement sinistré depuis 2015 déjà, depuis les attentats, gilets jaunes. On a toujours besoin de nous. On fait ce qu'on a à faire. Et puis, au bout de 2 mois, on nous oublie. C'est-à-dire que nous, la première ligne, deuxième ligne, on sait ce que c'est quand on parle de ça.
Et les salaires ont augmenté chez vous, Benjamin, ou pas?
Justement, justement, en 2020, avec mon associé, on sentait déjà ce qui allait se passer. On a augmenté le salarié avant même qu'il nous le demande, avant même que les délégués
en plein COVID,
nous sollicitent.
Il travaillait pas.
Alors si, nous on a toujours travaillé. On n'a jamais. Mais... Alors nous, c'est de la sécurité privée au niveau des aides. Je pourrais en parler pas longtemps parce qu'on en a eu zéro.
Oui, donc
nous,
on a
toujours travaillé. J'ai pas eu de chômage partiel chez moi. Donc les agents étaient pas dans leur appartement à ressasser, à repenser leur vie, etc. Ils ont toujours bossé. Ils ont toujours eu leur salaire temps plein.
Mais Benjamin, en fait, quand on parle, parce que quand on dit le grand égoïsme, je trouve que c'est une vision très paternaliste en fait des choses. On n'est pas dans une famille. Ça suffit en fait l'idée de penser que le patron serait notre père à tous et qu'on lui devrait quelque chose. En réalité, moi je trouve que vous avez une réaction très saine quand vous dites voilà, ils partent, etc. C'est pas forcément du grand égoïsme parce qu'en fait c'est juste un contrat. Le contrat de travail, c'est un contrat. C'est je donne ma force de travail d'une façon ou d'une autre et en échange on me paye. Et ça s'arrête là.
Aussi. Non, il faut
mais ça s'arrête là. Il
n'y
a pas le côté, je veux dire, le côté petit patron, je suis gentil, je leur donne des primes, machin, et eux, ils me doivent la reconnaissance éternelle.
Marianne, je pense sérieusement. Je pense sérieusement que c'est éternel.
Ouais, non, mais tu vois, enfin,
je veux dire, Story, ça,
mais oui, il y a un moment où tu vois, enfin, tu veux dire, cette vision paternaliste du travail, c'est dépassé
depuis. Juste le mot de la fin. On verra si toi ou moi avons raison. Parce que Olivier Dussopt, ministre du Travail, il a clairement indiqué que les parachutes sociaux dans des secteurs où il y a la pénurie de main-d'œuvre, il va les lever. Et on verra, confronté financièrement à la réalité de la vraie vie de la solidarité, en l'absence de solidarité, est-ce que les convictions vont continuer à prendre le dessus? Je ne le crois pas.
On va regarder la consultation et je remercie Benjamin d'avoir été avec nous. La grande démission, est-ce que c'est un choix égoïste? Je suis sûr que ça va être très partagé. Ah non, 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 non. C'est un non à 74%. Donc c'est véritablement la quête du sens. Bruno, il est là.
Aujourd'hui.
Bruno et Marianne, ils pavoisent, là, ils attendent avec impatience.
Les amis, les auditeurs, accrochez vos ceintures. Perturbation à venir.
Ils attendent le GG 7 des matchs là, sur la traque des jets privés des milliardaires au nom de la cause écologique. Est-ce qu'on a raison de publier leur trajet ou est-ce que c'est de la traque anti-riche? Mais c'est ça.
C'est des communistes en fait. Il va y avoir un score russe, ils vont être contents.
Ouais, mais c'est
un score nord-coréen. Mais
on va en parler.
On veut 99%.
Vous allez faire tous les dictateurs du monde vont être jaloux de votre score.
On va en parler tout à l'heure à 11h. Mais dans un instant, le petit journal du off, petit écho de la politique et puis le quiz des GG.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Marianne Soubret, avocate, Bruno Poncet, cheminot. Nous sommes avec Stéphane Manigold, qui est restaurateur.
Votez les copains de Twitter, hein. Votez, j'ai besoin de vous. Hein.
Attention, parce que t'affiches une certaine fébrilité. Tout le monde est là à attendre avec impatience le GG 7 et match de 11h tout à l'heure.
Nous sommes très sereins, nous.
Je vais vous redonner le thème si vous débarquez maintenant dans les GG. Ça s'appelle le flight tracking, le traçage des avions, qui consiste à suivre en temps réel les déplacements des avions. Mais surtout aujourd'hui, ça a pris une dimension écologique, c'est pour suivre les trajets des jets privés à partir des signaux qu'ils émettent publiquement, qu'ils envoient et qui sont reçus par des plateformes qui ensuite les publient. Et derrière dire, regardez les milliardaires français, américains, asiatiques, les stars du rock, du rap. Regardez avec leur jet privé, ils ont fait 200 bornes, c'est tant de CO2 de pollution, honte sur eux. C'est l'environnement qui prime, certes, mais est-ce que c'est pas de la traque anti-riche? 32-16 pour venir en parler dans les grandes gueules tout à l'heure. Alors, Poncet, il est en train de montrer l'écran. On dira un bulldog face à Manigold.
D'ailleurs, son t-shirt, il l'a affiché. Hein.
Les Pixies. On a l'équipe, oui, c'est pour la bonne cause avec Marianne et avec Bruno.
Le
camp du mal, Stéphane Manigold.
Le camp des questions à Miss France, il est en face.
Le camp de la raison, il est là. C'est tout.
Et on a Stéphane qui fait face au reste du monde. Donc, bon, allez, venez faire le match tout à l'heure avec
nous. Allez, venez les copains. Faites une pause là et venez avec nous.
En attendant, on y va pour le petit journal du off. Le petit journal du off, les petits échos de la politique et puis ensuite le quiz des GG avec notre coproducteur Paul Lassen. Bonjour Paul.
Salut à tous.
Est-ce que vous connaissez les écolos?
Oui, on connaît les écolos.
Lesquels? Il y en a tellement.
Eh ben, il va y en avoir un de plus. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui va être lancé, qui va s'appeler les écolos, lancé par l'ancien des Verts, passé par le MoDem et par l'ancien ambassadeur d'Emmanuel Macron, Yann Verling, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, nouveau parti écologiste dit de centre-droit en éco-responsabilité, avec Florence Portelli, elle aussi pécressiste à droite, et Vincent Jeanbrun. Ils disent aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on laisse toujours à la gauche l'écologie. On peut être de droite, être éco-responsable. Monsieur Bruno Poncet.
Non mais déjà, juste le...
Les écolos, ils vont s'appeler.
Déjà, juste le CV de celui qui organise ça, le mec, il est déjà à 5 couleurs différentes en l'espace de quelques mois ou quelques années. Donc déjà, mais il faut qu'ils arrêtent. Enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les partis politiques, déjà, il faudrait qu'ils arrêtent tous. Ça sert plus à rien. Droite, gauche, tout ça, ça veut rien dire. Et puis que deuxièmement, l'écologie, ça doit pas être l'apanage d'un parti. L'écologie doit être l'apanage de tout le monde, de l'environnement, de tous ceux qui aujourd'hui sont concernés par la planète. Et on voit les catastrophes qui se passent aujourd'hui. Et que là, j'ai l'impression que c'est plutôt ce parti qui est carrément plus que moribond, qui est sous respirateur artificiel depuis des années, qui est en train d'essayer de se régénérer sur le thème d'écologie parce qu'il a vu qu'il y avait des incendies, qu'il y avait des températures. Enfin, c'est ridicule. Et ce monsieur, ben, je voudrais bien savoir où il sera dans 3 ans, parce que maintenant il est chez Pécresse, il était avant dans un tas de couleurs. Peut-être dans 3 ans, il sera socialiste ou à la NUPS.
Il a pris une canicule pleine tête, là.
Non, mais
c'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de rester dans les vieux clichés, de considérer qu'au fond, le capitalisme, c'est la production revendiquée, assumée, c'est des gros pollueurs, c'est machin. Moi, je trouve que si l'écologie vient à droite, c'est aussi une bonne chose. Mais si on veut aller réellement...
C'est compatible, être de droite, être écologique, dans la mesure où la droite, c'est plutôt le libéralisme.
Si tu veux réellement faire de l'écologie et pas de l'écologie de salon, tu considères l'écologie, ce qui est mon avis, hein. Et je le défends, l'écologie comme un sujet régalien. Et que sur tous les sujets, sujets étatiques, école, dans l'assiette de nos gamins, bah, tu mets ces sujets de notions environnementales sur l'agriculture. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. J'étais invité par l'ancienne présidente de la commission de gastronomie de l'Assemblée nationale.
Ils ont une commission gastronomie à l'Assemblée nationale.
Oui, comme au Sénat d'ailleurs. Je salue Catherine Dumas qui est là.
Pensez, il est mort de rire.
Je vais te dire. J'ai mangé. Alors, je vais tout de suite casser les clichés de ce qu'est la cantine des députés au 8e étage. C'est dégueulasse. Et je leur ai dit clairement, vous n'aimez pas nos agriculteurs français, parce que quand vous nous proposez des crevettes qui viennent de l'autre bout du monde et des avocats qui sont un carnage écologique, je suis désolé, vous n'aimez pas l'écologie. Vous n'aimez pas nos agriculteurs. Donc, l'écologie, ça commence par des gestes simples. Ça commence aussi par l'exemplarité. Et la cantine de l'Assemblée nationale, comme les autres, eh bien, elles doivent avoir dans l'assiette des produits
éco-responsables.
Absolument.
Je vais vous parler d'une avocate spécialisée en droit de l'environnement qui s'appelle Corinne Lepage et qui a créé il y a très longtemps un parti de droite écologique qui s'appelle CAP 21. Donc, je ne comprends rien. On nous dit que c'est nouveau, mais ça existe depuis très longtemps. CAP 21 existe depuis très longtemps. Ils avaient même, j'ai vu des candidats en fait aux dernières élections législatives étiquetés CAP 21. Donc en fait, ce parti-là vient se surajouter à quelque chose qui existe déjà. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous rejoins tous les deux. Pour moi, l'écologie ne doit avoir aucune couleur politique. C'est transversal.
Parce que moi je me souviens de cette phrase de Nicolas Hulot qui est une bonne nouvelle économique, qui est une mauvaise nouvelle écologique. Et finalement, il a raison, puisque plus tu as de croissance économique, moins c'est bon pour la planète. Donc finalement, l'écologie, elle est pas uniquement de gauche et de décroissance par rapport à ce qui se passe sur la planète.
Non, mais l'écologie, ça doit être le sujet primordial à l'heure actuelle et ça doit pas être traité par des partis politiques qui en font des arguments de marketing.
Sur ça, t'en fais un sujet régalien.
Pas que régalien, t'en fais surtout un sujet de société où les gens, tu les éduques, les enfants et tu commences comme ça. Parce que aujourd'hui,
c'est de la sobriété économique, on est d'accord.
Mais non, parce que tu peux aussi être sobre économiquement et quand même être libéral. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas antinomique.
Exactement. Allez. Tu vois, en 2018, j'ai créé mon groupe et nous avons, grâce à la CRAMIF, intégré des critères de sécurité, santé, travail, d'écologie, et nous avons fait l'intégralité des travaux depuis 2018. On a supprimé le gaz, on a augmenté le confort de nos salariés, et là, Madame Olivier Grégoire fait une grande consultation pour savoir comment, dans nos métiers, on peut avoir plus de sobriété écologique. Mais ça existe déjà, arrêtons juste d'inventer de nouvelles mayonnaises qui ne sont pas bonnes.
On y va pour le quiz des GG avec Paul.
Non, plus important.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Monsieur Paul, allons-y pour les vrais faux, les oui, non, les petites questions du jour. C'est
et
parti.
Autre réjouissance, comme on dit. Les GG, quel genre de rappeur qui a un profil assez inédit, même très inédit, vient de signer dans le label Capitol Records?
Ah oui, Capitol, c'est le label historique oui. des Beatles, des Beach Boys, etc.
Éric Zemmour?
Non, j'en sais rien.
Ah, Jules. J'ai envie de te donner un point, quand même, mais c'est pas ça.
Jules,
un rappeur américain?
C'est pas tant sa nationalité qui interroge.
Un rappeur au profil inédit.
Très inédit.
Je sais pas.
Il s'appelle FN Mecca. Et il a la particularité d'être un robot. Un robot rappeur doté d'une intelligence artificielle.
Oh, putain, c'est la fin du monde.
C'est vraiment intriguant. Ça a été annoncé la semaine dernière.
FN comme Front National?
Oui, mais ça se passe
pas. En marketing, ils sont pas très bons. Hein.
Ça n'a pas la même raison.
C'est un robot américain.
Outre-Atlantique. Du coup, la semaine dernière est sorti le premier extrait. Je vous propose de l'écouter.
C'est pas pire,
ils utilisent tous des vocodeurs.
Petite précision, ouais. Être une intelligence artificielle comme ce robot, ça ne travaille pas sur tous les morceaux de la chanson. Donc, il écrit les paroles, il compose la musique, mais c'est un vrai humain qui pose sa voix. Alors après, comme tu le dis, il y a des vocodeurs, des effets sur la voix, mais c'est quand même le robot qui crée toute la musique de A à Z.
Moi, je préfère encore Charles Consigny qui nous fait comme d'habitude, là, ou je sais pas quoi.
Bah, il a un vocodeur. Non, mais
c'est intéressant, toi qui es fan de musique, de rock, de hard rock, etc.
Mais de rap aussi.
Et de rap, c'est la fin du monde si l'intelligence artificielle et les robots se mettent à faire de la musique.
Et pour moi, les musiques, c'est l'émotion. Alors, les robots, ils sont pas, pour l'instant, je les ai pas vus nuer d'émotions. Donc moi, je trouve vraiment que c'est la fin du monde parce que, mine de rien, quand tu vas à un concert, quand tu écoutes un disque, le premier truc qui te ressort, c'est ce qui va te toucher dans l'émotion. Après, le reste, voilà. Et peu importe la musique.
Tu aimes Jim Morrison, j'imagine. Les deux. Ouais. J'adore Jim Morrison. Dans les années 60, petit Jim Morrison, il dit l'avenir de la musique, c'est un homme seul derrière des machines. Et Jim Morrison dans les années 60.
Vendredi prochain, je vais voir Kraftwerk. Hein. C'est quatre mecs derrière des machines. Et c'est très bien, mais c'est pas que ça.
C'est à 45 ans, Kraftwerk. Même 50 d'ailleurs.
Ouais, pas loin de 50.
On y va.
C'est même pas de qui vous parlez.
Je vous amène au Japon cette fois pour lutter contre son manque à gagner budgétaire. Eh bien, le gouvernement japonais a inciter les jeunes à manger plus et consommer plus.
Manger des sushis. Après manger des pommes.
C'est vrai ou faux?
Oui, c'est vrai, même d'alcool, ils ont dit, mais même qu'ils boivent
c'est
plus.
Faux, c'est pas la nourriture, ouais, mais t'as raison. Ouais. C'est pire, pour pallier à leur manque à gagner, eh bien, les Japonais veulent relancer la consommation d'alcool au sein de la population. Vous pouvez voir sur RMC Story des extraits. Mais le vrai problème de tout ça, c'est qu'ils ne ciblent pas toute la population japonaise. Non, non. C'est le fisc qui a lancé cette campagne et il vise les 20-40.
On pousse les 20-40 à boire plus.
Oui, pour donner plus d'argent à l'économie
pour
japonaise.
Consommer davantage.
J'ai des amis qui vont être contents. J'ai des amis qui vont partir au Japon.
Ah, mais ils ont Chirac calculé... avait dit manger des pommes, ils disent buvez de la
buvez, buvez, buvez.
Ils n'ont pas calculé le coût pour la population quand ils vont devoir traiter les cirrhoses, les cancers du foie.
Eux, quand ils se mettent à l'envers, les Japonais, moi j'ai vu ça dans un restaurant,
c'est une campagne du fisc japonais et pas du gouvernement japonais.
C'est pour donc récupérer de la taxe.
Voilà.
Après, moi je vais te dire un truc. Au moins, le fisc japonais est très ouvert parce que notre service fiscal en France n'est pas forcément aussi ouvert que le service.
De la loi 20,
c'est pas possible. C'est... On continue.
Vrai ou faux, les grandes gueules, vous ne pourrez plus demander n'importe quoi à Google. Vous savez que dans la barre de recherche, vous pouvez taper à peu près toutes les questions possibles.
Bah alors, on va dire que c'est vrai.
Bah, je dirais faux quand même.
Bah, faux.
Bah, c'est vrai. Figurez-vous. Ah ouais. En tout cas, c'est le souhait des équipes en charge du moteur de recherche. Et leur objectif, c'est d'obtenir des explications plus claires quand vous posez des questions et surtout éviter la prolifération de fausses nouvelles. Je vous donne quelques exemples. Oui. Aujourd'hui, si vous demandez à Google « Est-ce que les femmes sont mauvaises ?», la réponse de Google, c'est « Chaque femme a un certain degré de prostituée en elle. Chaque femme a un peu de mal en elle. Les femmes n'aiment pas les hommes, elles aiment ce qu'elles peuvent faire. » Pour eux. Alors, je crois que tu veux enchaîner, Alain.
Est-ce que c'est foncièrement faux ce qui est dit? T'as autre chose?
J'ai un autre exemple.
C'est de l'humour.
Pardonnez-moi, il suffit de penser à Ève, et puis voilà, je veux dire, ça, on nous apprend ça quand même depuis 2000 ans.
J'en ai une autre, et tendez bien l'oreille. Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? Parce qu'ils ont 8 roues et 4 personnes dessus et que 4 plus 8 font 12. Il y a 12 pouces dans un pied et un pied est une règle. Et la reine Elisabeth était en tant que règle. Et la reine Elisabeth était aussi un bateau. Et le bateau a navigué sur les mers. Et dans les mers, il y a des poissons et les poissons ont des nageoires. Et les Finlandais ont combattu les Russes. Et les Russes sont rouges et c'est pourquoi les camions de pompiers
Ça, c'est la réponse que donne Google quand tu sais pourquoi
Absolument.
En fait, si tu veux, Google met en avant.
Évidemment.
Pour la reine Elisabeth.
Par des algorithmes, des systèmes d'algorithmes, met en avant. Et donc, plus tu programmes des robots, et Florent Philippot est le champion toute catégorie en France du troll et de la connerie, eh bien, lui, il programme énormément de robots qui viennent polluer les sondages. Alors là, tu lances un sondage sur le vax, je peux te dire qu'il t'en programme des
robots. Mais là, c'est juste une question.
Non, mais c'est pareil, c'est des algorithmes en fait. Plus ton nom remonte, plus tu arrives en tête de page. Et ils veulent changer, ils veulent être beaucoup plus précis sur leurs réponses. Ils veulent, quand tu poses une question, un peu le Wikipédia entre guillemets du net, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment apporter une vraie réponse et pas être dans l'algorithme.
Merci Monsieur Paul, on vérifiera ça. Dans un instant, GG7 et Match, traquer les jets privés des milliardaires, publier leur trajet pour dénoncer la pollution au CO2. Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce que c'est de la traque anti-riche?
Ça va choquer.
Ça va cogner.
GG7 et Match, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.